Totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous. En marge de la journée de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, certaines organisations de la société civile à travers le pays plaident pour la réalisation du projet national de plantage d'arbres. Selon elles, ce projet piétine alors que le Fonds forestier national perçoit les taxes dites de reboisement. En Ituri, la société civile reproche au Fonds forestier national de ne pas planter aucun arbre malgré la taxe de reboisement qu'il perçoit. Par ailleurs, le gouvernement provincial du Katanga a initié le 20 mercredi 5 décembre, à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, une campagne de reboisement dans la ville de Lubumbashi. Pendant 3 mois, plus de 200 000 jeunes plants de flamboyants, d'acacia, de sapins et de jacarandas provenant de la pépinière de la ville devaient être plantés. Qu'en est-il de ce projet dans votre milieu et que proposez-vous pour les pleins succès de ce plan national de plantage d'arbres à travers le pays? Pour participer à cet échange de près de 57 minutes, composez le 081-890-63-15. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pia@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou, Pierrot Lamegi et Jean-Noël Mokondo réalisent cette émission et Jira Lungembo vous la présente. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons notre invité en ligne, Frédéric Djengo, qui est le secrétaire général AI à l'environnement. Et nous avons également les auditeurs qui sont déjà en ligne pour intervenir et aussi participer à ce débat. Cosma, vous êtes à Kisangani. Nous allons vous accorder la parole dans quelques instants. Monsieur Frédéric Djengo, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, je voudrais savoir. Bon, l'interlocuteur général qui était déjà revenu, mais moi je suis plutôt le directeur chargé des forêts au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme.
Voilà, chargé des forêts au ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature. Voilà. Vous êtes notre invité. Aujourd'hui, il existe un plan national de plantage d'arbres et nous avons déjà remarqué qu'à Kinshasa, autour du plateau des Bateke, il y a un grand projet qui a été réalisé dans ce sens-là et je crois que le problème aujourd'hui, c'est le problème des réplicages. Il faudrait que ce projet soit répliqué à travers les pays. Est-ce que vous pouvez nous dire que effectivement, ce plan doit être exécuté à travers le pays?
Ah, merci beaucoup. C'est l'objectif que fait le ministère de l'Environnement à travers ce projet qui a donné des bons résultats au plateau Bateke que nous voudrions avec la collaboration de tout le monde, avec l'appui du gouvernement et des partenaires au développement, dupliquer à travers les pays, surtout considérant que plus de 5 provinces du pays n'ont pas de forêt, et surtout autour de tous nos centres urbains, il n'y a pas de forêt, et c'est un projet qui va la peine d'être dupliqué à travers les pays.
Oui, alors pour que la population puisse vraiment s'en approprier, quelle est la politique ou l'approche que le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme va appliquer pour effectivement atteindre cet objectif?
Bon, vous savez qu'il faut qu'il y ait implication de la population, il faut que la population comprenne que l'arbre est d'une importance capitale dans sa vie et surtout comprendre que l'arbre c'est l'ami de tous les jours pour construire, pour cuire les aliments, pour bénéficier de l'air purifié. Il faut être toujours à côté de l'arbre. Et je crois que l'exemple de Mampou est à suivre parce que là, les populations ont été impliquées et qu'elles-mêmes ont compris l'importance des forêts et surtout qu'ils trouvent ils trouvent quand même de l'argent pour essayer d'aider leur famille, de payer la scolarité pour les enfants. Ce que nous pensons, c'est qu'il faudra que la population elle-même comprenne et qu'il faut aller vers la population et leur dire que planter l'arbre, c'est au même niveau que planter les manioc, les arachides, les bananes et tout ça là. Et vraiment, c'est important. D'où, il faudra quand même que la population soit sensibilisée et qu'elle comprenne l'importance de l'arbre.
Oui, mais dans certains coins du pays, les projets marchent déjà et certains gouvernements provinciaux s'en sont appropriés de la question. Mais dans d'autres, par contre, les projets piétinent encore. Nous pouvons vous citer les cas de l'Itouri où d'ailleurs, tout récemment, donc la semaine dernière, la société civile venait de reprocher au Fonds forestier national de ne planter aucun arbre malgré la taxe de reboisement qu'il perçoit.
Bon, là, il faut peut-être voir les problèmes au cas par cas. Bon, le Fonds forestier national venait d'être créé il n'y a pas longtemps et qu'il n'a pas encore aussi récupéré la totalité des fonds qui lui sont dus pour commencer à faire. Le Fonds forestier national est en train de se réorganiser, de s'installer. Et même au niveau de l'Itouri, il y a d'abord les structures qui doivent être bien installées avant de commencer les travaux sur terrain. Nous reconnaissons que par-ci, par-là aussi, il faut voir tous les problèmes liés au macro-environnement. Je crois qu'avec le temps, ça va aller facilement.
Oui, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons également appris que le gouvernement provincial du Katanga a initié mercredi 5 décembre, à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre, une campagne de reboisement dans la ville de Lubumbashi. Est-ce que cela s'est fait en collaboration avec le ministère de l'Environnement?
Oui, normalement, vous savez qu'en RDC, le 5 décembre est déclarée journée de l'environnement, journée de l'arbre, et à cette occasion, toutes les structures du ministère à travers les pays plantent des arbres, et comme nous disposons aussi à travers les pays de brigades de reboisement, c'est normal qu'au Katanga, qui est aussi une province, dispose d'une forêt qui est très sensible à la pression humaine, nous encourageons ces pratiques qui se sont faites aussi à travers d'autres provinces.
Voilà, nous avons des auditeurs qui sont déjà en ligne, mais on va quand même vous poser encore une question de précision. Aujourd'hui, c'est vrai, à travers le pays, vous l'avez reconnu, il y a certains coins qui traînent encore le pied, tandis que d'autres avancent par rapport à ce projet de plantage d'arbres pour répliquer ou dupliquer le projet qui a été réalisé d'ailleurs à Mampou, ici à Kinshasa, même alors qu'il y a Mampou, mais sur le plan par rapport à ce projet au niveau de Kinshasa, on sent encore qu'il y a certains coins, je peux citer les cas de la chaussée du boulevard du 30 juin, où à l'époque il y avait vraiment des arbres qui étaient tout au long de cette grande route, mais aujourd'hui il n'y en a pas assez. On a même appris qu'il y avait un projet de reboisement. Où en est-on, Monsieur Djengo?
Ok, je crois que tout est prévu, et programmé, et comme vous le savez, les travaux d'aménagement du boulevard venaient de se terminer, et qu'il y a toute une planification, des dispositions sont prises, avec quelles essences il faut mettre le long du boulevard, parce qu'il y a aussi des problèmes d'embellissement, et on ne fait pas comme ça. Il faut qu'on essaie de se mettre d'accord sur les essences qu'ils vont mettre, quelles sont les solutions à prendre. Et tout, et je crois que c'est un projet qui est prévu et que nous allons réaliser, je crois, au courant de l'année prochaine.
081
nous sommes déjà à la fin de l'année.
Oui, nous sommes déjà à la fin de l'année, donc c'est un projet qui pourrait intervenir l'année prochaine pour le cas de Kinshasa.
Oui, pour les gars de Kinshasa, je crois que ça sera seulement pas au
pour boulevard
le 30 juin. Il y a les boulevards de Lumumba et partout on doit normalement embellir la ville. Il y a des projets, nous devons le faire aussi avec la province, donc la province de Kinshasa, je pense à l'hôtel des villes et aux quatre coordinations, et ben, dont nous disposons ici à Kinshasa, c'est un peu ça. C'est un programme commun que nous avons fait ensemble avec la ville.
Donc c'est un projet qui est réalisé grâce à l'appui de la Banque mondiale et de l'Union européenne, donc bref, des partenaires traditionnels.
Bon, il y a beaucoup de partenaires. Vous savez qu'au niveau avec la Banque mondiale aussi, il y a un projet qui est prévu au Bas-Congo, qui va commencer au Bas-Congo et au Bandundu. C'est pourquoi j'avais même demandé que vous ayez... vous intéressiez M. Ngoma, qui a beaucoup d'éléments par rapport à ça, le DCP. Malheureusement, il est occupé, mais il y aura plus ou moins cette année autour de Kinshasa, au Plateau Bateke et au Bas-Congo, plus ou moins 3000 hectares qui seront plantés dans le cadre de ce projet. Puis il y a aussi, nous avions appris aussi qu'il y a un projet qui sera financé par l'Union européenne, le Plateau Bateke, où on va encadrer directement les paysans, on va faire des pépinières villageoises et tout cela, et qui pourra aller jusqu'à 10 000 hectares pour une période de plus ou moins 5 ans.
Voilà,
vous voyez que tout ça, ce sont des produits du projet d'abord qui est parti de Kinzono, le centre forestier du ministère de l'Environnement à Kinzono, et qui a donné lieu comme à Mampou. Et Mampou, il y a d'autres projets qui naissent d'année en année, et c'est vraiment encourageant. Et ça commence par Kinshasa, parce que vous savez que Kinshasa a quand même plus ou moins 10 millions d'habitants et que les besoins en bois de chauffe, en charbon de bois et aussi en produits vivriers est plus élevé que partout ailleurs.
081-890-63-15 pour participer à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous recevons donc le premier auditeur qui est en ligne, Cosma. Vous êtes à Kisangani et Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi. Cosma, bonjour.
Bonjour, J.S. Bonjour, Anélie.
Voilà, Cosma, qu'en est-il de ce projet dans votre milieu et que proposez-vous pour le plein succès de ce plan national de plantage d'arbres à travers le pays?
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole parce que ça fait longtemps que je n'interviens pas sur vos antennes. Alors, moi je suis d'abord étonné de ce projet. Si chez nous à Kisangani ça ne s'est jamais dit et ça ne s'est jamais vu. Pourquoi? Parce que si je peux vous donner un exemple simple. Il fallait quand même planter les arbres pour que les gens puissent avoir un bon oxygène et tout ça, qui va leur permettre une bonne vie. Vous allez trouver là où les Chinois sont en train de faire des canalisations d'eau, dans des routes et tout ça. Au bord des routes, donc à côté des routes, il y avait des arbres quand même qui existaient auparavant. Ce sont des arbres naturels qui existaient auparavant, ainsi de suite. Bon, malheureusement, le gouvernement a déterré ces arbres-là pour faire la canalisation, sans pour autant songer à planter d'autres arbres assimilés. Je crois que nous sommes en train d'être envahis par les érosions ici à cause des manques d'arbres. Si vous trouvez dans plusieurs milliers ici à Kisangani, même dans toutes les communes, je n'ai jamais entendu là où on parle que non, il y a quand même un projet de plantation d'arbres. Mais écoutez, c'est la province orientale qui produit plus d'arbres ici et je crois que c'est une province qui est plus forestière. Et il y a des arbres qui quittent ici pour descendre à Kisangani, à Kinshasa. Pour cause des ventes, ça c'est connu. Et le gouvernement lui-même reçoit des taxes sur ces arbres-là. Alors, comme nous sommes en train de le dire aujourd'hui, là, je suis étonné de voir que non, il y a les fonds mondiaux et appuient même le gouvernement central sur les plans de l'environnement. Alors, cet argent-là, je me demande, je pose la question à l'invité, s'il peut me dire où va cet argent qui est donné par les fonds mondiaux, ou bien la taxe-là, qui est imposé aux gens qui viennent couper les arbres sous l'autorisation du gouvernement. C'est quoi? Et ça montre quelle image sur la population. Et je voudrais encore demander à l'invité qui est, est-ce qu'il peut me dire leur projet ici à Kisangani? C'est à quelle année? Parce qu'il a parlé là-bas l'année prochaine pour Kinshasa.
C'est ça, ça, oui.
Alors ici chez nous à Kisangani, c'est à quelle année? Et je voudrais parler, surtout M. JF, l'invité, c'était monsieur, je crois qu'il n'a pas... Il n'a pas assez d'éléments sur ce qui est parce qu'il venait à peine d'entrer sur le pouvoir, tout ça. Mais vous allez trouver même à Itour. On a parlé d'Itour. Et on peut aussi parler des territoires d'Opala ici à Kisangani. Parce que c'est là où vient beaucoup d'arbres. Et on peut parler de plusieurs territoires tels que Dissangui. Et les grands arbres qui descendent sur les bateaux là-bas, ce sont les arbres qui proviennent ici de Kisangani. Et alors, je ne vois pas l'importance de ces arbres-là, de couper ces arbres, pas que ça ne bénéficie pas à la population, mais plutôt c'est le gouvernement lui-même qui vient et qui s'enrichit de ces arbres-là. Est-ce qu'ils peuvent quand même avoir une modération? Parce qu'il faut avoir pitié quand même de cette population qui a déjà souffert tant. Et indemniser même cette population, même la population locale et les autochtones de la forêt, du village, il faudrait qu'on nous donne quelque chose à ces gens-là, parce que vous venez directement, je peux vous donner que non, je peux vous dire qu'il y a même une société étrangère qui continue à couper les arbres d'une manière illicite ici chez nous à Kisangani. Moi, j'ai fait le doigt, mais je ne voudrais pas citer directement les noms, mais au niveau des territoires du Sangui, cette société-là a eu l'approbation des autorités, mais ne sont pas, cette approbation n'est pas légale, parce qu'il n'y a pas, la procédure n'a pas été suivie. C'est un peu ça, si l'invité
une précision. Est-ce qu'il n'y a que des entreprises ou des sociétés qui exploitent le bois, qui se livrent donc, ou qui s'adonnent à la coupe d'arbres, hein, donc de l'abattage des arbres, ou bien il y a aussi la population qui entre dans le jeu, dans la danse?
D'abord, il y a la société étrangère. C'est une société étrangère.
Une société à Opala.
Non, parce que moi, je suis parti faire les stages au niveau de cette société-là. On m'avait dit de ne pas même parler de ça. Ça peut être dit anonymement.
Ça sert à rien.
La population, bon, au niveau des villages, vous connaissez que la population construit avec les arbres. Mais quand la population coupe les arbres pour la construction et d'autres choses, c'est au gouvernement maintenant de venir montrer l'importance de ces arbres-là à la population. La population, elle ne savent pas et elle ne sait rien que non. Les arbres nous aident seulement soit à avoir des maisons ou bien à avoir des bois de réchauffage.
Donc il n'y a aucune campagne de sensibilisation de la population.
Il n'y a aucune campagne, il n'y a rien qui se fait.
Merci beaucoup à Cosma d'avoir appelé. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gir, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors, qu'en est-il à Lubumbashi avec ces projets de plantage d'arbres dans la ville et aussi à travers la province?
Merci beaucoup, monsieur Gir, de m'avoir donné encore cette opportunité d'intervenir dans votre émission qui est une émission capitale pour la population congolaise. Vous savez, monsieur Gir, ici chez nous à Lubumbashi, presque chaque année, le 5 décembre, on célèbre cette journée d'arbres en plantant de nouvelles arbres. Il y a la mairie qui s'implique, il y a les bourgmestres des communes qui s'impliquent. Mais la question que je me pose, M. Gir, est celle de savoir, est-ce que lorsqu'on plante ces arbres, on donne les statistiques. Par exemple, on dit que l'année 2011, on a planté 10 000 arbres. Et arrivé en 2012, on donne encore la statistique des... Par exemple, 15 000 arbres, est-ce que les 10 000 arbres là plantés en 2011, est-ce qu'ils savent combien d'arbres sont en vie et combien d'arbres ne sont pas en vie? Ça, c'est la première question, puisqu'on ne pouvait pas seulement commencer à célébrer que non, on a planté autant d'arbres, mais les arbres qu'on ne sait pas encadrer. Vous savez, monsieur Gir, le problème qui est là, notre gouvernement en tout cas, ne doit pas négliger aucun domaine de la vie sociale, puisque les arbres aujourd'hui nous donnent la vie. Aujourd'hui, les services d'environnement, je ne sais pas, même au niveau des ministères là-bas, s'ils peuvent nous donner la statistique des arbres coupés dans telle année et la statistique d'autres arbres qu'on a replantés encore pour un remplacement de ces arbres-là qu'on avait coupés. Je ne crois pas qu'ils ont ces éléments-là. Au moment où on devrait replanter d'autres arbres en fonction des arbres qu'on a déjà perdus. Mais ce qui n'est pas fait dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons des services nationaux. Les services nationaux, c'est quoi les travaux? Ça devait être ça. De se mettre en œuvre pour le suivi des services environnementaux. Aujourd'hui, on sait seulement percevoir les taxes, les différentes taxes pour l'environnement. Mais je crois que ces taxes-là devraient contribuer à l'encadrement de ces gens-là qui devraient commencer à faire le suivi des vies de ces nouvelles arbres plantés. Mais ce qui n'est pas fait, d'où, comme proposition, il faut que notre service environnemental se remette en ordre. Savoir faire le suivi de ces arbres-là plantés. On ne peut pas seulement planter quelque chose et vous ne savez pas son suivi. Vous plantez seulement 10 000, vous donnez la statistique de 10 000, mais vous n'êtes pas sûr que ces 10 000 arbres là sont en vie ou pas.
Merci beaucoup, Maître Machaka. Nous retenons par rapport à votre inquiétude. Vous reconnaissez d'ailleurs que d'abord que le 5 décembre de chaque année, à Lubumbashi, on célèbre la journée des arbres. Et par rapport à ça, donc, il y a l'opération plantage d'arbres. Mais vous, vous vous inquiétez sur le manque de suivi. Vous vous rendez compte que finalement, sur le terrain, il n'y a pas de statistiques hein, sur les arbres coupés et les arbres plantés. Là, vous soulevez la question sur les niveaux de reboisement par rapport à ce projet et aussi vous ajoutez le texte d'environnement qu'on perçoit à longueur de journée, à quoi ça sert. Donc nous allons reposer la même question à notre invité donc pour en avoir un carnet. Merci Maître Machaka. Arsène, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Monsieur.
Voilà, Arsène, vous avez la parole.
Bon, moi je vais aborder presque dans les mêmes sens que mes prédécesseurs, mais alors je vais tenter un peu de faire une petite reproche. Nous avons plusieurs ministères qui sont en quelque sorte censés s'occuper de l'environnement, de la nature, des arbres et toutes ces histoires-là. Mais ces gens-là, le ministre, ils gagnent combien? Prenez le salaire de ces ministres-là, vous calculez un tout petit peu. Un arbre, pour planter un arbre, ça coûte combien? Il y a des agents qui sont sur toute l'étendue de notre nation. Ces gens-là ont un salaire. Chaque jour ici, on voit à la télé, on voit partout, on calcule les budgets. Les gens sont payés. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Et quel est le travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain? Prenez l'agriculture ici chez nous. Nous sommes dans l'agriculture de l'époque de nos ancêtres. Chaque fois, il faut couper les arbres pour faire des champs. Et si on ne le faisait pas, la population, qu'est-ce que ça va manger? La population n'aura pas à manger. Bon, dans toutes ces histoires-là, dans toutes ces analyses-là, moi je dirais ceci. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités en main. Qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires, journées de fête, de l'arbre, tout ça. Moi, quand j'étais je voyais, on achetait des parcelles. Quand on achète une parcelle, il y avait des agents de l'État qui passaient pour vérifier. Vous avez combien d'arbres dans cette parcelle? Vous coupez un arbre, vous avez une amende. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regardez-vous là-bas à Kin.
Oui, oui.
Regardez
oui,
la commune d'Engaba. Oui, oui, ça n'existe plus, il n'y a plus d'arbres. Ça sèche.
Oui. Oui, ben, je crois qu'Arsène, c'est vrai, ben, à ce niveau, parce que il y a la population, vous l'avez dit, la population consomme abondamment le bois. Ben, à ce niveau-ci, il faudrait quand même qu'on taxe aussi à cette même population de payer une taxe par rapport à cette consommation. Vous ne pensez pas que ça serait aussi trop le leur demander? Et surtout que la plupart de ces populations n'ont pas cette culture-là de pouvoir payer les taxes. Quand on demande déjà, c'est trop pour elles.
Ok, monsieur. Les demander, ça serait trop. Parce qu'on a déjà trop payé et on ne fait rien avec. Voilà le problème. On a déjà trop payé et on ne fait rien avec. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est prendre ses responsabilités. Moi, je l'ai toujours dit. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, qu'on ne nous donne pas des explications sur des histoires qui sont tellement simples, tellement élémentaires. On n'a même pas le temps d'aller sensibiliser la population parce que la population comprend que nous n'avons pas de responsables. Voilà les exemples que mes collègues ont donné. Les arbres, on remplace par les bétons.
Oui,
de l'autre côté, oui.
En attendant que le projet soit exécuté à travers le pays, mais au niveau de la population, parce que quand vous coupez les arbres, avec toutes les catastrophes naturelles qui peuvent survenir, notamment les érosions et tout, pourquoi ne pas directement par rapport à la sensibilisation qui est faite par les différentes ONG pour apprendre la population à faire le reboisement? Je crois que ça ne demande pas trop, ne fût-ce que le faire un bois chaque année, ça pourrait protéger la population.
Vous n'en faites pas, monsieur. La population comprend. Il y a des arbres. S'il y a des arbres, c'est parce que la population comprend. S'il y a des mangues, c'est parce que la population comprend. S'il y a des arbres qu'on plante par-ci, par-là. Vous croyez que c'est l'État qui plante ça? C'est la population qui a quand même ce sens-là d'avoir son environnement. L'arbre est le compagnon de l'homme. Ça, il faut le comprendre. C'est simple.
Voilà. Merci beaucoup, Arsène. Nous prenons Jean-Pierre qui est à Kinshasa, ici à Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa. Jean-Pierre, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la radio catholique.
Voilà, nous avons vu dans certains coins du pays, la journée du 5 décembre a été célébrée et marquée aussi par de quelques initiatives, hein, notamment à Lubumbashi où on a lancé une campagne de reboisement dans la ville. Pendant 3 mois, plus de 200 000 jeunes plantes des flamboyants et d'autres, notamment d'acacia, seront plantés. Et à Nitouri, la société civile reproche au Fonds forestier national de ne planter aucun arbre malgré la taxe des reboisements qu'il perçoit. Alors à Kinshasa, est-ce que vous avez aussi un commentaire par rapport à cette journée et qu'en est-il de ce projet dans votre milieu? Est-ce que vous constatez quand même qu'il y a cette opération et que proposez-vous pour le plein succès de ce plan national de plantage d'arbres à travers le pays?
Et d'abord, je vais préciser, et je suis à Kinshasa, il y a certains qui questionnent. Mais je suis plutôt d'Isiro. Le plus souvent, j'ai réagi à partir d'Isiro. Donc, je vais plus parler des faits que je vois dans la province orientale, effectivement, à Isiro.
Voilà, allez-y. Vous
savez, la majorité des projets de notre pays s'exécutent le plus souvent dans les chefs-lieux des provinces. On essaie de faire ça pour égayer la population, pour intéresser les investisseurs qu'on est en train de faire quelque chose. Mais à l'intérieur, rien ne s'est fait. À Isiro, à ma connaissance, rien ne s'est fait. Parce que j'ai même appelé les amis pour les demander. Tout de suite, là, c'est qui était dans ce cadre-là. On m'a dit qu'on n'en a même pas parlé, on n'en a même pas fait allusion. Donc, c'est pour dire que dans notre pays, les grands projets de gouvernement sont faits dans les chefs-lieux des provinces ou dans la capitale pour essayer un peu de dire aux autres pays qui ont des ambassades dans notre pays que nous sommes en train de faire quelque chose pour avancer. Mais en réalité, rien ne s'est fait dans les terrains. Nous pouvons par exemple, je pouvais par exemple proposer au ministère de l'Environnement.
Oui, ne vous en faites pas, Jean-Pierre, parce que les partenaires sont aussi regardants. Nous avons vu le représentant de l'Union européenne descendre sur le terrain pour en avoir le cœur net sur le projet Mampou qui était à sa fin. Il y a sur le plateau de Bateke par rapport à cette à l'occasion d'ailleurs, elle a même promis de faire des descentes au niveau des provinces pour vérifier si réellement ce projet pouvait être répliqué à travers le pays. Donc je crois que quelque part, les partenaires sont un peu regardants aussi.
Oui, c'est ça, les partenaires sont regardants, mais il faut voir, vous avez cité quelques places, mais l'étendue de notre pays par rapport à ce que vous avez cité ne représente absolument rien. Mais ce que j'ai voulu proposer, par exemple, à ces ministères, est de s'associer avec les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et nous pouvons avoir dans chaque école, on demande à chaque enfant de planter l'arbre, et cette école va faire le suivi de cet arbre, de l'évolution de cet arbre, tout au long de l'évolution des élèves. Chacun va suivre l'évolution de son arbre, et nous pouvons donc non seulement planter les arbres, mais aussi apprendre aux enfants l'importance de
ces
arbres, et la population va donc intégrer l'importance de cet arbre puisque les écoles sont implantées presque dans tous les pays et d'une manière ou d'une autre la population va bien maîtriser l'importance et là ça pourra évoluer puisque faire évoluer tout un projet sans pour autant que la population puisse s'en approprier, on le fait sans pour autant qu'elle puisse comprendre, ça ne pourra pas vraiment avoir de l'importance et des durées dans la société.
Voilà, l'arbre a un rôle capital, vous venez de dire, dans la vie de l'homme. L'arbre a la faculté de régénérer naturellement l'air et de solidifier le sol, comme l'a signifié Maître Machaka, 081-890-3315, pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs.
Frédéric Djengo, vous êtes le directeur chargé des forêts au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Nous sommes avec vous. Vous êtes avec nous, Djengo? Oui, monsieur Frédéric, vous avez suivi tout à l'heure les auditeurs, hein, les uns et les autres, qui ont aussi émis leurs inquiétudes par rapport à ce projet de plantage d'arbres à travers le pays. Vous avez suivi Machaka qui a parlé de problèmes, la question sur la statistique ou les statistiques des arbres coupés et des arbres plantés, replantés. Est-ce qu'au niveau du ministère, on peut avoir des statistiques dans ce sens?
Ouais, les statistiques au niveau du ministère ne fait pas un inventaire d'exploitation d'arbres plantés. Nous parlons en termes d'hectares. Et comme vous le savez, les cas de Mampou, par exemple, où nous parlons souvent de plus ou moins 8000 hectares d'arbres plantés. Et là, nous avions pris une approche telle que les parcelles qui étaient plantées soient occupées par des paysages agroforestiers. C'est un exemple dont vous aviez fait allusion. Et à l'époque où les fonds forestiers avaient des moyens dans nos brigades, à travers les pays, on savait qu'est-ce qu'on plantait chaque année. Mais le problème, c'est qu'il faudra que nous soyons aussi appuyés par les gouvernorats, par les autres ministères qui collaborent avec nous. Et quand je prends l'exemple des Kinshasa ou d'un peu ailleurs, partout où les structures, que ce soit les coordinations provinciales, le ministère ici à Kinshasa et un peu des coordinations provinciales au niveau des territoires aussi, chaque fois qu'on plante, vous voyez qu'il y a aussi des lotissements ou de ce qui se font, on vient, on détruit. Hein, je crois qu'il faut reconnaître ça, que le ministère de l'Environnement, à son temps, a fait aussi beaucoup d'efforts en matière de plantation d'arbres. Ici, à Kinshasa, vous avez vu que le long du boulevard Lumumba, de part et d'autre, il y avait beaucoup d'arbres qui étaient plantés. Et quand vous allez vers le campus, et aujourd'hui, il y a des endroits qui sont lotis. Et c'est le cas est pareil à travers les pays.
Oui, bien sûr.
Et c'est un peu ça. C'est
oui, bien sûr. L'inquiétude de Massaka.
À tous les niveaux, il faut que les gens respectent les arbres. Nous ne pouvons pas citer des pays ici. Mais quand vous allez dans d'autres pays, les gens respectent l'arbre. Et sur l'arbre, il ne faut pas qu'on soit réprimandé pour respecter. J'ai entendu quelqu'un parler. On nous a arrêté. On n'est pas là chaque fois pour arrêter les gens, mais les gens doivent comprendre que l'arbre, c'est un ami avec lequel nous devons vivre parce qu'il nous procure à manger, il nous procure du bois, il nous procure. Il faut qu'il y ait cette culture. Quand vous allez au Bas-Congo, par exemple, moi je vois que c'est un peuple qui a vraiment le sens de l'amour d'arbre, ce sont des cultures d'arbres. Mais il s'est limité seulement au niveau des arbres fruitiers parce qu'ils vivent d'argent. Mais aujourd'hui, il faudra qu'ils soient sensibilisés, qu'ils fassent aussi d'autres essences qui peuvent procurer autre chose. Voilà, c'est un peu ça le problème.
Oui,
il faut que nous prenions conscience à tous les niveaux.
Oui, Frédéric, Cosmo de Kisangani qui a parlé de la province orientale, qui est une province forestière, alors qui est quasiment une province forestière. Alors aujourd'hui, on a l'impression que ce projet ne profite pas à cette province. Voilà, donc au niveau d'Opala, au niveau des Siro, des territoires évoqués par notre auditeur de tout à l'heure, on dit que c'est là où vraiment on exploite le bois, mais bon, aucune campagne de sensibilisation de la population, et d'ailleurs la population ne bénéficie de rien malgré les taxes qui sont perçues. Mais voilà, je crois que c'est, il y a quand même intérêt à pouvoir revoir dans ce projet de pouvoir privilégier également la province orientale.
Tout à fait, il y a à prendre à laisser dans tout ça. Moi, je crois que l'émission passe à travers les ondes, donc à travers toute la nation congolaise, et que toutes les autorités impliquées dans ce secteur doivent être sensibilisées pour qu'ils se décident sur des priorités dans les programmes d'activité. Et c'est vrai, bon, je sais qu'il y a quand même une faiblesse au niveau de parfois des décideurs qui peuvent croire que des provinces forestières n'ont pas besoin vraiment de problèmes. Non, donc les provinces forestières n'ont pas de problèmes d'arbres.
Non, aujourd'hui, il n'y a pas
de... Moi, je suis d'une province forestière, mais on croit que l'arbre doit se régénérer facilement. Mais nous avions, quand vous allez dans des villes comme Bandaka, les gens ne pouvaient pas croire qu'en Bandaka, il peut se poser des problèmes de bois. Donc, la démographie qui fait que vraiment il y a la pression tout autour des lambeaux forestiers, autour des grands centres, autour de villes, et la forêt qui commence à disparaître. C'est ainsi que il faudra qu'au niveau de la société civile, au niveau des coordinations pour le gouvernement, qu'on pense à prioriser, à prendre comme priorité ces problèmes d'arbres qu'on doit prendre comme les riz, comme les manioc, comme je le disais. Donc l'arbre, c'est vraiment quelque chose d'indispensable, de fondamental. Et aussi, nous pensons qu'au niveau des gouvernements provinciaux, il faudra aussi qu'il y ait des priorités. Et il a parlé d'Opala, bon, je sais que le premier prix crucial, c'est ici que Opala. Parce que quand vous, au fur et à mesure que vous montez vers le nord de la RDC, vers les périphériques, que ce soit à l'est ou à l'ouest, il n'y a vraiment pas de forêt. Et si nous devons commencer par là où il n'y a presque pas de bois et venir progressivement, mais aussi, nous avions remarqué que au niveau de concessions forestières ou là où nous avons des exploitants. Quand nous remarquons des cahiers des charges, les populations ne donnent pas priorité au problème de reboisement. Ils donnent priorité à autre chose. Les gens demandent des tôles, les gens demandent des motos, les gens demandent des quoi, mais les gens ne pensent pas à la reconstitution de forêts. Et c'est un peu ça, c'est un problème réel.
Oui, vous avez évoqué.
Nous le savons, c'est un problème réel. Et moi, je l'ai dit parce que les gens peuvent croire que c'est paradoxal, parce que les gens peuvent croire que la RDC, c'est un pays forestier qui n'a pas de problème de bois ou quoi. Mais la forêt n'est concentrée qu'à la cuvette.
Oui.
Où il y a ce qui est moins peuplé, alors que le nord-est, le sud-est, le sud-ouest, tout ça, il n'y a pas de forêt. Et ça va être une priorité à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et il y a aussi des problèmes de moyens. Donc il faudra que on tienne compte de ça et que on cherche pas tous les moyens à faire, surtout avec les problèmes d'agroforesterie. Donc il y a de mélanger les cultures vivrières avec les arbres, que ce soit des arbres fruitiers, que ce soit aussi des essences ou des cultures, des essences médicinales. Il faut que ce soit dans notre culture.
Oui, Frédéric Djengo, vous avez évoqué les cas de sirop qui a un problème. Selon nos informations, les forêts disparaissent de plus en plus dans les territoires de Fizi. C'est ce que révèlent d'ailleurs certains acteurs de la société civile regroupés au sein du réseau des plaidoyers de lutte contre la pauvreté dans cette partie du pays, donc à Baraka. Est-ce que vous avez une idée sur la situation des Fizi?
Oui, ça doit être réel, parce que je vous dis que tous les Kivu, par exemple, qui est l'ancienne province des Kivu, tous les Kivu ont des problèmes de bois. Et je vous ai dit tantôt que si on peut peut-être être un peu tranquille par rapport au problème de bois, c'est la Kivu centrale. Donc je prends la sous-région Tchopo, et Équateur et Maïndombe, en quelque sorte, mais le reste de la République a des problèmes de bois. Et un peu les maniements, parce qu'on dit qu'il y a quand même des forêts, mais le reste, il n'y a pas de bois. Et ça ne peut pas nous étonner quand je vous dis tantôt que en Bandaka, il y a déjà des problèmes de bois. Tout autour de Bandaka, il n'y a pas de forêt.
Voilà.
Si j'ai encore, c'est plus grave.
Voilà, Frédéric Djengo, nous rappelons que vous êtes le directeur chargé des forêts. Si vous pouvez encore nous accorder 3-4 minutes, nous savons que nous avons pris de votre temps parce que vous avez une réunion. Juste 4-5 minutes, le temps de prendre encore d'autres 2 ou 3 auditeurs qui peuvent poser leurs préoccupations. Parce que tout ce que vous dites, c'était hyper important. Je crois que ça va aider plus d'un à pouvoir se faire une idée sur ce projet de reboisement, comment la cartographie se présente dans notre pays. Nous avons Nicolas Choukou qui est en ligne, qui est un environnementaliste, qui nous rejoint pour aussi réfléchir ensemble avec nous. On va le prendre dans quelques instants. Et David qui est à Bounia, qui attend aussi d'intervenir. 081-890-43-39 ou encore le 081-890-63-15 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs pour participer. 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons associé à ces débats Nicolas Choukou. Nicolas, vous êtes environnementaliste. Vous êtes avec nous, bonjour. Oui, Nicolas, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, je vous écoute.
Voilà, vous avez suivi tout à l'heure les auditeurs qui ont émis leurs inquiétudes par rapport à la question du jour. Où en est-on avec les projets nationaux de plantage d'arbres, l'importance de planter les arbres, comme l'ont évoqué les uns et les autres tout à l'heure. Donc l'arbre joue un rôle capital dans la vie de l'homme. L'arbre a la faculté de régénérer naturellement l'air et de solidifier les sols. Mais le problème, c'est que il y a certains coins urbains qui sont qui bénéficient au fait de ces projets, mais tandis qu'ailleurs où les problèmes se posent avec acuité, on sent de moins en moins les gens s'impliquer, ni la population ou encore moins le gouvernement, selon le point de vue des uns et des autres. Vous êtes aussi un observateur de l'environnement. Quel est le constat que vous avez fait concrètement à Kinshasa et à travers le pays?
Le premier constat est celui de savoir qu'on ne peut pas considérer les problèmes de l'arbre comme un problème isolé. Alors, les problèmes de l'arbre ou les pays, c'est un tout. Kinshasa et ou la République démocratique du Congo, c'est un écosystème qu'il faut les prendre en ensemble. Quand le gouvernement de la République démocratique du Congo et surtout le ministère est en train de parler de l'arbre, à ce titre-là, il faut qu'il établisse tellement les plans les stratégies capables de revoiser. Parce que quand ils parlent d'une façon isolée, de Isio, ils parlent du Kivu, je parlerai de Kikwit ou la forêt disparaît, je parlerai de, du Nord-Ubangi ou la forêt disparaît. Mais que faut-il faire? Il faut, un, conscientiser la population. Deux, que le ministère avec la population puisse associer la société civile. Et deux, il faut choisir les types d'espèces à reboiser par rapport aux milieux écosystémiques. Et trois, il faut que les besoins du reboisement puissent être un besoin, puissent être reboisés les arbres en fonction des besoins. Par exemple, à Kizono, on a planté les arbres parce qu'à Kinshasa, il y avait un problème de l'énergie bois. Et on parle au Bas-Congo, on peut planter les arbres, c'est par rapport aux arbres fruitiers. Mais si je m'en vais dans d'autres pays, dans d'autres provinces,
la province
il faut que ce reboisement soit en fonction d'un besoin spécifique. Et aujourd'hui, à travers le monde, il est important de faire les reboisements par la sylvie et par l'agroforesterie, toujours associés. Les arbres avec d'autres espèces.
Oui,
et en fait,
oui,
comme nous avons M. Diengo qui est le secrétaire général là-bas, moi je pense que si Kinzono et le projet Makala a existé, c'est parce qu'il y avait Kateb qui est dont lui-même a patronné, et donc il est nécessaire de mettre sur pied un service national de reboisement et capable de piloter l'activité et mettre à la tête une personne intelligente, démocratique et à l'amour de ce pays.
Oui,
et les fonds forestiers que les gens qu'on trouve au ministère, les fonds qu'on est en train de donner par les Nations Unies et autres, doivent être au service de la plantation des arbres et non seulement mettre au service des équipements et mettre au service des postes de certains individus. Et aussi, il faut interdire aussi que un produit forestier dans le cadre de qui soit taxé plusieurs fois. Est-ce un paysage de citoyens qui fait l'énergie bois, on les taxe sur les plans de production, on les taxe dans le cadre du transport, on les taxe dans le... Là, on est en train de rançonner facilement la population. Moi, je crois qu'il est temps de prendre, de se reposer, que nous puissions faire un état des lieux dans ce pays et mettre en place une stratégie de reboisement national.
Oui, Nicolas, vous avez évoqué la mise sous pied d'un service national qui va gérer ces projets de reboisement. Mais bon, voilà, il existe déjà un fonds forestier, un fonds forestier national. Vous ne pensez pas qu'il y aura télescopage, au fait, multiplier les services pour rien?
Ok, mais le fonds forestier est différent des services de reboisement.
Mmh.
Le fonds, c'est un service qui est capable de récolter les fonds, de les gérer et les dispatcher. Et les fonds forestiers n'est pas seulement pour les reboisements, il y a plusieurs choses. Mais les fonds forestiers doivent servir à reboiser. Les fonds forestiers doivent servir aussi aux équipements. Et comme le secrétaire général là, les fonds forestiers l'aident aussi à aménager son bureau. Donc les fonds forestiers n'est pas seulement pour les forêts, mais c'est le fonds. Même là, il faut que les ingénieurs, les gens qui travaillent, on doit aussi avoir des primes pour travailler. C'est dans ces mêmes fonds.
Voilà, merci Nicolas. Nous vous gardons encore en ligne. C'est vrai que nous rappelons que Frédéric Diengo n'est pas le secrétaire général AIE, hein, parce que le secrétaire est déjà rentré. Lui, il est rentré à son poste comme directeur chargé des forêts. Donc, il intervient ici en tant que directeur chargé des forêts. Merci Nicolas. Restez en ligne. David, vous êtes à Bounia. Vous voulez intervenir. Bonjour David.
Bonjour. Comment ça va?
Très bien, merci. Et vous, là où vous êtes?
Ok, merci. Ce qui me préoccupe, bon, le sujet d'abord c'est intéressant, et puis moi personnellement je voudrais intervenir pour quelques points. Je rejoins l'avis de mon prédécesseur quand il dit avant de lancer un projet, il faudrait d'abord avoir un plan. Dans ce plan, on doit voir avec qui exécuter le projet, avec prise en charge par quel moyen, et quand même, il faut un chronogramme. Et l'endroit aussi doit déterminer où on doit exécuter le dit programme. Alors, où c'est qui avec qui? Parce que notre pays, il faut pas s'ignorer. Vraiment, si vous allez trouver dans d'autres domaines, on essaie un peu de respecter chacun. Donc, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Dans d'autres ministères, vous allez trouver, par exemple, à la santé, ce sont des médecins qui conduisent le ministère. Et ainsi de suite. Bon, pour le cadre de notre ministère, moi je suis agronome environnementaliste, j'ai fait la gestion des ressources naturelles, mais je suis des fois surpris de voir, même au niveau de la province ou des districts, vous allez trouver des gens qu'on a pris, qu'on a ramassés. Ça, c'est, je pense, on doit faire la part des choses. Ce n'est pas un domaine politique. Là, c'est un domaine technique, parce que le reboisement dont on parle, ce n'est pas le fait qu'on ait décidé qu'automatiquement ça réussit. Il faut des aspects beaucoup plus techniques et des gens capables d'analyser, de réaliser le projet. Si je parle, c'est par rapport à la situation de Rituri, par exemple, où vous allez trouver qu'à un moment, la société civile a interdit aux contribuables de financer, parce que en fait, on voit rien sur terrain. Voir rien, ça veut dire qu'il y a plus d'exploitation et moins de reboisement, par exemple. Donc, on remplace moins les bois coupés par rapport à ce qu'ils ont comme fonds. Donc, comme proposition, nous vous disons que, au niveau du gouvernement, que si ce sont des bureaux politiques, qu'on mette déjà, qui ont la tendance et l'obédience politique, mais s'il s'agit de descentes sur terrain ou bien des choses, mais ils ont des universités qui produisent des cadres. Et puis comme ça, ils associent l'université leur livre des personnes pleines d'expertise, et puis c'est comme ça peut aller. Quand vous allez nous dire qu'on a planté, on a reboisé autant d'hectares, est-ce que dans cet hectare, il y a combien de plats qui ont survécu? Moi, j'ai vraiment personnellement critiquer un projet. J'étais dans une ONG. Il y a un collègue agronome, mais lui, il a fait autre chose dans l'agronomie. Et j'ai trouvé, il était en train de stabiliser une route. Il a fallu qu'il reboise. On a trouvé qu'il avait très mal. C'était pas une façon de le critiquer, mais il n'est pas formé pour ça. Il a planté des trucs à ligne au lieu de mettre à quelconque. Alors, ça a permis que l'érosion puisse augmenter par rapport à ce qu'on voudrait protéger. Mmh. Donc c'est pour dire que quand on ne réalise pas bien les projets, on récolte un échec. C'est ça ce que j'avais comme...
Voilà, donc vous souhaitez vraiment qu'on puisse recourir à l'expertise de d'autres personnes qui sont très 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 outillées par rapport à la question de reboisement. Il y a entre autres des écoles qui forment, vous faites des universités, des instituts supérieurs qui forment les Congolais dans ce sens-là. Donc, on peut citer Ifa Yangambi, on peut citer Bengamisa, on peut citer tant d'autres. Hein. Bon voilà, donc il y a des spécialistes, et je crois que à la matière, on peut quand même recourir à eux. Merci David, vous êtes à Bounia, d'avoir appelé. Et nous retournons du côté de Frédéric, parce qu'on doit libérer Frédéric Djengo, qui est le directeur chargé des forêts à l'environnement. Monsieur Frédéric, c'est vrai, les inquiétudes tournent autour d'une bonne politique. Il faut un chronogramme. Est-ce qu'à ce niveau, vous pouvez, bon, si ce n'est pas un extrait, de nous faire une idée sur le chronogramme de ce programme? L'objectif, c'est planter combien d'arbres à travers le pays?
Merci beaucoup. Je pense que tout projet, tout programme, c'est fait en fonction des moyens. Il faut voir aussi qu'est-ce qui est mis comme moyen dans les cadres du reboisement au niveau du pays. Et nous bénéficions depuis un certain temps de l'avantage du partenariat avec la Banque mondiale, avec l'Union européenne et tout ça. Et c'est nous réalisons ces projets à travers les pays. Et vous êtes sans oublier qu'avant de réaliser un projet de partenariat, il y a tout un processus qu'il faut respecter. Et il y a aussi une évaluation, donc suivi évaluation qui se fait à la fin du projet. Si aujourd'hui nous avions dit, nous sommes partis des 15 ans qui a fait naître un membre, puis il y a d'autres projets qui ont suivi. C'est parce que on a trouvé que il y a quand même de bons résultats. Mais ce que j'insiste, c'est la sensibilisation, l'intégration de toute la communauté. Ce qui est fait par les ministères de l'Environnement, il faut que ça soit bien compris et protégé aussi par les ministères de l'Agriculture, les ministères des Affaires foncières, que ce soit au niveau national ou au niveau des provinces. C'est ça le problème. Hein. Quand on dit, voilà, est-ce qu'ils peuvent nous donner... Si nous reposons, comme je viens de le dire, il faudra que, quand nous sommes là sur le terrain, il y a un suivi qui s'est fait, nous avons l'argent. Et aujourd'hui, il n'y a pas un ministère qui dispose des agronomes, surtout des forestiers, par rapport au ministère d'envoi. Je peux dire que la 50%, plus de 50% des forestiers formés hein, en RDC sont au ministère de l'Environnement. Et la personne dont je vous ai parlé, M. Ngoma, par exemple, qui est un ingénieur forestier qui a travaillé longtemps au plateau de Bateke. Et tout ce qui se dit aujourd'hui, tel autre expert dans le domaine des reboisements, je crois que 80% étaient formés au ministère de l'Environnement. Et ce qu'il disait est vrai, mais moi je pense que ce que nous faisons, nous le faisons de façon planifiée. Il faut soumettre les projets, il faut demander des financements. Les financements, et là, il y a une procédure. Il faut aussi respecter ce qui est prévu dans le cadre de ce projet jusqu'à la fin, qui est sanctionné par une évaluation. Donc, tout est programmé. Je crois que M. Soukou, par exemple, a travaillé avec nous, en collaboration avec nous depuis, et qu'il était d'abord étudiant, puis au ministère de l'Énergie, il sait ce que nous faisons. Et même, nous voudrions quand même que, je pense qu'il y a un problème de sensibilisation, un problème de priorité au niveau provincial, au niveau national. Et petit à petit, les gens doivent comprendre que l'arbre, c'est un besoin fondamental. L'arbre est un ami de tous les jours. Voilà, c'est un peu ça. Et en ce qui concerne les compétences, je crois qu'au niveau tout le monde qui s'est occupé de la direction de reboisement, vraiment sont des forestiers. 80% voilà. Sont des forestiers qui se sont occupés de cette direction. Et au niveau des provinces, vous savez, bon, tout ce que le pays a connu, tout ça, c'est des 10 dernières années. Il ne faut pas qu'on se les cache. Il y a eu quand même certaines défaillances, mais à son temps, les brigades de reboisement étaient dynamiques. Mais quand vous passez aujourd'hui à travers le pays, ce que le ministère de l'Environnement a fait avec la Banque mondiale, avec le Fonds de reconstruction du capital forestier, a été en tout cas ravagé par des constructions anarchiques, par du n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment ce pillage systématique des arbres que nous plantons. Décourage le ministère et décourage aussi la direction de reboisement et aussi même les brigades de reboisement. Voilà, c'est un peu ça que je peux dire.
Oui, oui, pour vous permettre de nous quitter, donc Jean-Pierre, qui a dit à Isiro, donc il parle de la collaboration entre le ministère de l'Environnement et celui de l'enseignement pour ce genre de projet. Il faut associer les élèves et c'est aussi une façon de leur apprendre l'importance de l'arbre. Comment vous jugez cette proposition?
Tout à fait. Moi, je vous dis que le ministère de l'Environnement, c'est un ministère qui, depuis un certain temps, essaie de collaborer avec toutes les parties prenantes. Vous voyez que c'est vraiment une approche qui est recommandée, même au niveau national. Parce que je crois que la main-d'œuvre, comme parfois, la sensibilisation des écoles, des universités, et peuvent jouer un grand service dans la plantation d'arbres autour des écoles, autour des universités, autour des hôpitaux, et ça va créer en quelque sorte des ceintures vertes à travers nos grandes cités, nos centres urbains et nos villes. Et c'est vraiment important et nous encourageons ce genre de partenariat.
Frédéric Diengo, nous rappelons que vous êtes le directeur chargé des forêts, l'environnement, conservation de la nature et tourisme. Merci d'avoir accepté notre invitation et on vous libère par ici. Hein.
Ok, c'est moi qui vous remercie et je m'excuse s'il y a peut-être quelques défaillances parce que c'est compliqué. Et surtout que c'est normalement la directrice de reboisement qui devait passer à l'émission. Merci de la confiance faite à ma modeste personne et à la prochaine.
Parole aux auditeurs.
Nous poursuivons avec vous, chers auditeurs. Vous êtes nombreux à attendre de participer à ces débats. Nous vous rappelons que vous pouvez nous rejoindre au 081 890 63 15 ou encore au 081 890 43 39. Théophile, vous êtes à Kananga. Bonjour Théophile.
Bonjour Pierre, bonjour les auditeurs de Radio.
Vous avez la parole. Oui, vous avez la parole.
C'est une chose que le directeur parte avant la fin de l'émission.
Oui, nous avons un deuxième invité, Nicolas Choukou, qui est là, qui est avec nous, que nous avons encore gardé.
Oui, voilà, merci beaucoup. J'ai compris que la plupart d'intervenants dans cette émission sont des experts en la matière. Mais moi, j'ai fait observer une chose. Nous parlons de reboisement dans notre pays. Pour quelle planification? Parce qu'en principe, tous les exemples que les intervenants ont donné ou le directeur a donné, ils ne donnent que pour les grandes villes. On a parlé de Bandaka, on a parlé de Kinshasa, les arbres qui étaient au bord de route, qui ont été enlevés par les Chinois pour la construction des caniveaux. Mais néanmoins, on oublie une chose. La grande majorité de la population ne se trouve pas dans les villes. Mais la population se trouve dans les milieux ruraux. C'est là où je crois la politique de reboisement pouvait attirer beaucoup d'attention et orienter les investissements en la matière. Et à mon avis, je trouve aussi que lorsqu'il y a des financements, ces financements sont bousillés par le système de notre administration qui est très lourd. On dépense la grande majorité de ce financement dans le paiement du personnel et dans l'équipement. Et la réalisation du projet sur le terrain ne se fait qu'avec un petit pourcentage de cet investissement. C'est pour cela que je propose que ce que mon ami mon compatriote de Dissiro a dit, il faut orienter d'abord la politique du reboisement au niveau de notre enseignement. L'enseignement primaire d'abord, parce que moi je suis âgé de 65, je me rappelle à l'école primaire, en 4e primaire, j'avais étudié les arbres, comment planter les arbres, et les casser et autres. Donc il faudrait que les enfants apprennent à partir de l'école primaire l'importance de l'arbre. Ensuite, on plante quel arbre?
En principe, Théophile, restez en ligne, hein. Je crois que on va poursuivre avec vous juste après le flash d'information, comme ça vous allez continuer avec vos idées.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre confiance à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Théophile, vous êtes à Kananga. Théophile, tout à l'heure, vous a demandé pratiquement dans le même sens que Jean-Pierre qui est à Isiro, qui a parlé de la collaboration entre le ministère de l'Environnement et celui de l'Enseignement. Théophile, vous êtes avec nous. Vous avez à nouveau la parole.
Je disais que en notre temps, on avait utilisé la façon de la partie de l'école primaire, il y avait un cours pour nous s'appeler observation. Donc, maintenant, nos enfants, nos petits-enfants, ne connaissent pas l'importance de l'art. Vous voyez, par exemple, quand on parle du reboisement, on finance le reboisement, nous sommes à la plantation des arbres existants. C'est par exemple les arbres fruitiers, par exemple des clous, et les planches, et autres choses. Donc, moi, je pense que à financement, on ne peut pas gâcher cet argent par une façon difficile et par l'achat d'équipement. Je ne peux pas être. On a fait ceci beaucoup plus d'importance à mon milieu de rue. Vous voyez, par exemple, on est en train de cultiver. On fait des champs chez nous. Les agro-entrepreneurs ne savent pas la population comment elle utilise la forêt. On est en train de. Peut-être parce qu'il n'y a pas une politique de lotissement, le lotissement à risque. Donc, c'est en ce sens-là que je propose que le gouvernement prenne des décisions pour aider aux agrocamps qui sont dans le milieu rural, aider la population à saisir la force. Il ne peut pas faire des champs de n'importe quelle manière. Voilà.
Merci beaucoup, Théophile. Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Bonjour, docteur Richard.
À tous nos amis qui nous écoutent. Oui, moi, mon intervention est axée sur deux petits points. Le premier point, c'est une introduction. Je n'ai pas aimé qu'un expert qui est passé par là le premier dise que le reboisement n'est pas un problème à ingérer dans la politique. Ça, c'est une fausse croyance. Il faut que le reboisement soit intégré dans la politique du pays. Lui, il croit que la politique, ce sont les querelles byzantines et les rébellions que nous voyons là. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'entre dans le vif du sujet, il ne faut pas que le reboisement soit une chose dont on doit parler seulement à la date consacrée au reboisement à l'arbre sur le plan mondial. Ça doit être pour nous une activité quotidienne, routinière, pratiquement de tout le monde. Deuxièmement, il faut que chacun dans son domaine s'intéresse au reboisement. C'est ainsi que moi j'appelle ça le reboisement par objectif. C'est là où le médecin viendra peut-être s'intéresser à l'arbre à chenilles pour produire les protéines d'origine animale. C'est là où le médecin s'intéressera, par exemple pour nos boulevards qui sont devenus nus comme ça, à reboiser pour avoir le tapis d'ombre pour protéger par exemple les malvoyants, pour protéger les albinos, etc. C'est là où l'artiste, par exemple, celui qui fait la sculpture, s'intéressera au reboisement pour les arbres à ouvrage, etc. Qu'on ne nous trompe pas. Il faut qu'on puisse évoluer. Il faut qu'on puisse montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on nous impose par l'extérieur. C'est quelque chose qu'on intériorise. Ça devient une partie intégrante de notre être. Et puis, quand on dit on a beaucoup déboisé, quelle est l'alternative? Vous savez que j'avais vu, quand je suis allé au Burundi, les gens utilisaient au Rwanda, au Burundi, au Kenya, etc., les désections des animaux, même les gaz de nos toilettes pour produire des gaz. J'ai amené cette histoire à la faculté des sciences ici, mais j'ai été hué, mais j'étais étonné de voir à la foire des étudiants qui s'est passée à l'Académie des Beaux-Arts, des professeurs qui nous ont hué hier, présenté des bidons avec des canicules ou je ne sais pas les canons pour produire des gaz à combustion. Donc, le Congo doit cesser d'être en retard avec ces hommes de science. Et j'ai vu à la faculté des sciences un professeur refuser l'inscription à un monsieur dans son domaine. Il était je ne sais pas qui. On dit, pour moi, tel monsieur, je crois, il était physicien ou bien je sais quoi, il ne peut pas faire l'environnement. En tant que qui? Il est quelle autorité scientifique pour dire l'artiste qui fait la sculpture ne peut pas faire le reboisement parce qu'il va reboiser demain en bois d'ouvrage? Voilà là où nous sommes.
Voilà.
Il ne faut pas que ce soit un train parce qu'il y a des lampes là-bas.
Oui,
mais
docteur,
un train de tous les jours,
oui, docteur,
parce qu'on veut résoudre un problème dans la communauté.
Oui, docteur Richard, donc nous comprenons que vous insistez pour dire le reboisement doit être intégré également dans la politique.
Oui.
Il faut une politique de reboisement pour arriver réellement à atteindre ces objectifs. Et vous insistez aussi sur ces projets qui doivent intéresser tout le monde et que ça doit être une activité de routine.
Le médecin, les géographes,
voilà,
etc.
Tout le monde. Merci beaucoup, docteur Richard, d'avoir participé à cette émission. Nous prenons Nicolas Choukou, qui est encore en ligne. Docteur Nicolas, qui est...
Il donne aussi ses coordonnées, parce que nous avons besoin de ça.
Voilà, merci beaucoup, docteur Richard. 081-890-63-15 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs pour participer. 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous revenons à vous, Nicolas Choukou. Docteur Nicolas, vous avez suivi tour à tour Théophile, docteur Richard, ainsi que Arsène qui était à Bounia. Voilà, je crois qu'à ce niveau, vous avez retenu quand même leurs inquiétudes. Nous prenons la toute dernière, celle de Richard, qui parle de reboisement qui doit être intégré dans la politique. Que dites-vous?
Oui, c'est très important. Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas prendre les reboisements d'une façon isolée. Il faut que dans les pays, qu'on puisse arriver à faire le plan les programmes, la politique et la stratégie de reboisement, pas le faire d'une façon sporadique. Et ça, c'est très élément important. Et quand il dit que ça doit être une activité régulière, et que vous comprenez qu'aujourd'hui, au ministère de l'Environnement, il n'y a qu'une direction de reboisement. Et cette direction, d'ailleurs, est limitée par beaucoup d'obstacles. D'où la nécessité, je disais, de mettre en place une structure nationale qui s'occuperait du reboisement. Mais les problèmes de budget dont on parle dans ces pays, les problèmes de budget par rapport au reboisement ne se posent pas. Le gouvernement a adopté un budget. Nous avons les fonds qu'on appelle capital forestier. Le directeur nous avait dit qu'il y a certains fonds qu'il reçoit dans le cadre des partenariats. Il est question de mettre ces fonds dans un plan, dans un programme, dans une politique et en mettant la stratégie de reboisement, pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais dans toutes les provinces. Et puis cela signifie qu'il faut asseoir les personnes qualifiées, capables à pouvoir le faire. Et parce que le problème d'environnement n'est pas un problème d'un agronome, comme disait quelqu'un ici. L'environnement utilise plusieurs disciplines. C'est pourquoi on appelle une science multidisciplinaire. Ça utilise les sciences ou les intelligences de plusieurs disciplines pour en faire. Donc, qu'est-ce que moi je peux dire par rapport aux amis qui sont en train d'intervenir tout à l'heure? Il est temps que nous puissions prendre de conscience que même si on n'arrive pas à reboiser par le gouvernement ou le ministère, nous commençons déjà à reboiser dans notre parcelle. Commencer à reboiser dans les quartiers, commencer à informer aux enfants. Mais il faut que la société civile, les écoles, il faudrait aussi que tout le monde puisse intérioriser dans la famille ou partout la notion du reboisement. Parce que, écoutez, dans la niche et dans la chaîne trophique, l'arbre est un producteur du premier ordre. Et le jour où l'arbre n'existera pas, c'est la chaîne trophique qui va être coupée. Ça sera la mort et la fin de la vie.
Voilà, merci beaucoup Nicolas. Mais juste une dernière intervention, donc dans 30 secondes. Est-ce que vous partagez l'avis selon lequel le ministère de l'Environnement doit s'associer au ministère de l'Enseignement primaire et secondaire pour réaliser ce projet?
Bon, c'est pas seulement le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Il est vrai que les notions de l'environnement doivent se donner déjà au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. C'est une bonne idée. Il faut aussi les insérer à l'enseignement supérieur. Il faut associer les ministères d'autres ministères, parce que vous pouvez aller reboiser un site, et aujourd'hui les ministères qui distribuent illégalement les parcelles vont aller distribuer les parcelles dans cet endroit reboisé ou à reboiser. Donc c'est un programme national, ça doit être un programme qui est lié avec tous les autres ministères. Le ministère des plans doit être là, le ministère du budget et des finances doit libérer les fonds, le ministère de la justice doit intervenir et faire dire la loi. C'est très important dans tout ça.
Docteur Nicolas Choukou, nous rappelons que vous êtes environnementaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier.
Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Mputu et Pierrot Elamegi l'ont réalisé. Jir Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net.